Gounod de Poulenc.
Le Cantique des Cantiques.
Un requiem allemand de Brahms.
Trois concerts à vivre en l'église de Saint-Eustache les 10, 16 et 31 octobre à 20h avec le chœur de Radio France et l'Orchestre National de France.
Tous nos concerts au 01 56 45 16
et sur concert.radiofrance.fr.
France Inter.
La voix est libre.
Et il est tout près de nous, là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet, c'est parti.
J'ai fait une recherche ce soir dans mon dictionnaire. Je suis allé à Syndrome de Stockholm et j'ai cherché en synonyme et j'ai trouvé une réponse assez originale. Parmi les synonymes, arrivé en tête de liste, allemand ayant voté en masse pour Angela Merkel pour la troisième fois consécutive avec un SPD très très faible. Ça laisse augurer 4 années magnifiques. Bon courage à vous les gars, bon courage. C'était Cyril Angers.
Quelle déception, on est vendredi, je viens de me rendre compte que ouais, j'ai dû louper un épisode. Que Monsieur Mermet, il n'y a plus l'émission le vendredi après-midi. Bordel, c'est quoi ça? J'ai les boules parce que j'aime bien vos émissions, même si je suis pas tout le temps de votre avis. Des fois, il y a des choses qui sont très bien, des fois, des choses moins bien, mais c'est comme ça la vie, hein, que c'est la diversité. Mais j'ai les boules que vendredi, vous soyez plus là, voilà.
Salut. Comment ça roule? Nous, ça marche. Bah, c'est toujours la transhumance. Là, on est en Lozère, dans un champ, en train de manger du porridge et on se dirige vers l'Ardèche. On a toujours le cheval et les 80 brebis. Et bah voilà, il nous reste 2 semaines et demie de trajet. On rencontre plein de gens dans des fermes et voilà, les nuits commencent à être fraîches, mais on pense à vous. Allez, à demain sur le chemin.
Bonjour, bonjour, c'est la rentrée du repère du pays d'Aix. Sur le thème, voilà 6 siècles que le capitalisme existe. Il est à bout de souffle, il s'effondre. Pourquoi ? Alors c'est mardi à 19h30 au 3C, Café Culturel Citoyen, 23 boulevard Carnot, à Aix-en-Provence. Et le bistrot nous est réservé, donc on pourra partager nos casse-croûtes.
Bonjour Monsieur Mermet, après tant d'années, on a du mal à accepter de ne pas vous entendre le vendredi. Parce que le vendredi, c'était en plus des choses très légères. Ça faisait chaud au cœur même. Et c'était le vendredi. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Oh ben j'ai du mal moi à m'y habituer. Hein. Au revoir.
Bonjour, je viens d'écouter le reportage avec les jeunes là qui font du sport réunis. Et j'aimerais bien que vous réécoutiez des fois les reportages que vous diffusez. Parce que là, il y a une erreur. À la fin du reportage, très fier, il a dit, bon, bah, je lui en veux pas, puisqu'il est jeune, il sait peut-être pas trop, pas tout. Il a dit qu'à l'époque de Mitterrand, il y avait les voltigeurs qui passaient car mobilette et qui nous donnaient des coups. C'était pas sous Mitterrand. Bon, je dis pas que c'était un enfant de cœur, mais quand même, je veux dire, j'aimerais bien que les choses soient rectifiées parfois. Il y a plein d'erreurs qui sont dans les reportages et ça commence vraiment à me chauffer. Une vieille mémère d'Ardèche. À bientôt.
Merci pour ces messages, mais sur ce dernier message, je suis absolument désolé. Les voltigeurs, c'était bel et bien à l'époque de François Mitterrand. C'était en, souvenez-vous, 86, élections législatives, cohabitation, Jacques Chirac, Premier ministre, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, et le ministre délégué à la Sécurité, Robert Pendreau, remet en selle les voltigeurs. Les voltigeurs, les voilà, avec leurs motos et leurs bidules. Et lors des manifestations contre la loi de Vaquet, en décembre 1986, un de ces voltigeurs abattra un jeune manifestant qui s'appelait Malek Oussekine. Mais le président de la République, à l'époque, c'était bel et bien François Mitterrand. Donc, désolé, chère auditrice de l'Ardèche, il n'y avait pas d'erreur dans ce pas. Mais en tous les cas, merci à vous d'être vigilant, et ça ne veut pas dire du tout qu'on se trompe jamais. Là-bas, si j'y suis, ça nous arrive plus qu'à notre tour. Aujourd'hui, une émission assez particulière. Aujourd'hui, on va retrouver Noam Chomsky. Figurez-vous qu'il y a 3 ans, en 2010, Noam Chomsky était à Paris à l'invitation du Collège de France, plus précisément à l'invitation de Jacques Bouvresse, qui était à l'époque au Collège de France, et il y avait eu une rencontre entre Chomsky et Jacques Bouvresse en l'enceinte du Collège de France, et nous avions enregistré à l'époque cette cette rencontre particulièrement passionnante entre deux grands intellos, il faut bien dire les choses, hein, attention, là c'est vraiment les intellos, et vous voyez, on ricane tout de suite les intellos, et justement, ben, ça va être là-dessus. À quoi servent ces intellos aujourd'hui? À quoi ça peut bien servir un intellectuel? Au fond, c'est la conversation qu'on va entendre, le dialogue qu'on va entendre tourne autour de ça. Quel fut le rôle des détenteurs de savoir, des intellectuels, et quel est leur rôle aujourd'hui, et en quoi est-ce qu'ils peuvent exister, vous souvenez peut-être, exister socialement, politiquement, bien entendu. Vous souvenez de ces expressions qui aujourd'hui sont démodées, travailleurs intellectuels et travailleurs manuels. L'intellectuel, il fut un temps où l'intellectuel était considéré lui aussi comme un travailleur. Mais à quoi pouvait bien servir son travail? Eh bien, à éclairer les autres. Parce que, au fond, la question, elle est toujours la même depuis fort longtemps. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour agir? Est-ce qu'il faut attendre de tout savoir pour se bouger? Ou bien est-ce qu'on peut faire confiance à notre bon sens? Eh bien, il y a bien des fois où notre bon sens nous trompe, nous abuse. On le voit dans les mouvements de foule, par exemple. Donc, ça suffit pas. Le bon sens ne peut pas suffire. Le sens commun, le common sense d'Orwell, peut-il suffire? Mais alors, si le bon sens, le common sense, le sens commun ne suffisent pas, alors il faut faire confiance aux spécialistes. Mais alors, pourquoi est-ce que le spécialiste n'abuserait pas de son pouvoir? Le détenteur du savoir n'abuserait-il pas de son pouvoir à un moment ou à un autre? On est quand même au cœur d'une question extrêmement importante, extrêmement ancienne. Souvenez-vous de Cornelius Castoriadis citant son ancêtre Aristote qui disait « Nous sommes les seuls », il parlait des Grecs, « Nous sommes les seuls chez qui la réflexion n'inhibe pas l'action ». Réflexion, action, tout savoir, sens commun, action. Voilà quelques mots que vous entendrez au cours de cette rencontre donc au Collège de France il y a 3 ans entre Chomsky et Bouvresse. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut à tous les AMG, c'est Farid de Vitrolles. Daniel et toute ton équipe, je voudrais vous remercier pour le reportage de jeudi. Vraiment, vous avez éclairé la banlieue. Et je voulais surtout mettre le doigt sur le contraste qu'il y avait entre la présentation du journal de 20h et les faits qui nous ont été décrits par le jeune de Grigny. Voilà, ben, comme quoi... L'actualité, c'est surtout celle qu'on a envie de te raconter, quoi. Voilà. Merci Daniel, bon courage à tous et à bientôt. Merci à vous.
Ça y est, le Sénat a adopté la loi contre le cul-bule des mandats avec toutefois un petit amendement maison qui fait qu'ils sont exclus de cette loi. Et oui, les sénateurs ne seront pas concernés si la loi est adoptée telle qu'elle par l'Assemblée nationale, par la loi sur le non-cul-bule des mandats. Vous verrez ces mêmes sénateurs, aux prochaines municipales, être consternés par la montée du Front National d'une part et de l'absentéisme d'autre part, et nous expliquer à quel point c'est grave pour la démocratie, et nous expliquer à quel point eux n'y sont vraiment, mais vraiment pour rien.
Bonjour Mermé, bonjour les gentils auditeurs. Il y a un truc que je vais faire, que j'ai pas l'habitude de faire, c'est que je vais me tatouer le numéro de téléphone du répondeur de là-bas si j'y suis. 01 56 40 37 37, je vais me le tatouer sur le sexe. Voilà, allez, bonne journée à tous, c'était Yann, des Côtes d'Armor.
My feeling is that once the clouds are blown away and the sunlight shines through, these things are obvious to everybody.
Ma conviction, c'est qu'une fois que les nuages sont chassés, que le soleil éclaire tout, après, ça devient assez évident ce qu'on aperçoit pour tout le monde.
There is a nice phrase that's sometimes been used called intentional ignorance.
Il y a une jolie phrase qui est parfois utilisée, c'est l'ignorance intentionnelle.
And once we are willing to make the effort
et quand on accepte de faire l'effort d'abandonner cette ignorance intentionnelle, les choses assez naturellement s'éclaircissent.
That's a hard step to take.
Mais le pas est dur à franchir.
Salut, c'est Daniel Mermès à la basse. J'y suis avec Noam Chomsky et Jacques Bouvresse. Que faut-il savoir pour agir ? Jacques Bouvresse, Noam Chomsky, bonjour. Alors, la première question pour Jacques Bouvresse, pourquoi est-ce que vous avez eu envie et l'idée d'inviter Noam Chomsky ?
Il y a très longtemps que je m'intéresse à ce que fait Chomsky. J'ai d'abord fréquenté son œuvre linguistique, puis après je me suis intéressé à l'autre Chomsky, si on peut l'appeler de cette manière, c'est-à-dire le penseur social et politique, qui m'a intéressé au moins autant que le premier. Et alors l'idée de ce colloque m'est venue parce que nous nous trouvons confrontés en France à une situation qui devient de plus en plus pénible pour les gens comme moi, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a une espèce d'incompatibilité qui s'est instaurée progressivement entre deux idées qui sont aussi essentielles et fondamentales l'une que l'autre, à savoir l'idée de liberté et l'idée de vérité. Il y a des gens qui soutiennent que aujourd'hui, pour être véritablement démocrate, il faudrait s'en prendre directement à l'idée même de vérité, enfin plus généralement à des idées comme celles de vérité, d'objectivité, de fait, etc. Donc la modernité, c'est-à-dire en fait la postmodernité, donc la modernité postmoderne, semble reposer en grande partie sur une conviction de cette sorte. Hein. Donc dans l'intérêt de la liberté et de la démocratie, il faut essayer de se débarrasser d'idées comme celles de vérité et d'objectivité. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait trois auteurs qui occupaient une position assez semblable, qui continuent, dans le cas de Chomsky, à défendre l'idée qu'il est absolument essentiel de conserver des idées comme celles de vérité et d'objectivité, et de les défendre, pour des raisons qui ne sont pas seulement théoriques, mais qui sont également sociales et politiques.
Et moi, je voudrais savoir, Noam, est-ce que vous êtes intéressé par le conflit que Jacques Bouvresse a évoqué entre eux, ce mouvement intellectuel qu'on appelle postmodernisme et ce que vous représentez un peu, Jacques Bouvresse, c'est-à-dire l'attirance pour la vérité, l'objectivité. Est-ce que c'est un conflit intellectuel qui vous intéresse, qui vous dit quelque chose, ou bien c'est une scène exclusivement française?
Frankly, I pay no attention to it at all.
Très franchement, j'y porte aucune attention.
It's a particular Paris pathology.
C'est une pathologie propre à Paris.
It has entered much of the rest of the world. In the United States, you find it in departments of literature. In the third world, where it's taken seriously as a consequence of French cultural influence, the effect is to draw intellectuals away from activism, away from participation in popular movements, and towards the much more comfortable realms of academic discourse, meetings in nice bars and so on, but away from activism. And activist movements, popular movements, need the participation of intellectuals.
Aux États-Unis, par exemple, c'est un certain écho, mais c'est relégué dans les bibliothèques et les librairies, dans les rayons de littérature. Mais c'est dans les pays du tiers-monde et du Sud que ce débat a un impact très très négatif, en particulier parce qu'il vient de l'influence intellectuelle de la France et qu'il a un impact très négatif en ce que les intellectuels de ces pays se détournent de la lutte sociale, se détournent des mouvements sociaux pour choisir des discussions beaucoup plus confortables qu'on peut tenir dans des cafés entre chercheurs, alors que les mouvements sociaux et les mouvements de lutte ont besoin d'intellectuels à leur côté.
Dramatic to see the comparison between left intellectuals in the 1930s, many of them leading scientists and mathematicians, who were engaged in educational activities for the masses. They wanted there are books like Mathematics for the Millions, Science Studies, Workers' Education, trying to give popular movements the tools and the understanding that they could use for their own liberation. Their counterparts today are trying to take those tools away from them and leave them completely in the hands of the oppressing classes.
C'est intéressant de voir, par exemple, les intellectuels de gauche des années 30, qui étaient des chercheurs, des scientifiques, et qui travaillaient à l'éducation populaire, à donner aux classes ouvrières des outils pour travailler en faisant des livres, la mathématique pour tous, la science accessible à chacun. Alors qu'aujourd'hui, on voit les intellectuels qui, au contraire, essayent de retirer ces outils à ceux qui luttent.
But you know, the business classes, they're going to keep the tools. They don't pay attention to the idea that there's no truth, there's no science, there's no mathematics. They're happy to have poor and oppressed people believe that. Then it's easier to control them.
Et la classe business, la classe économique, elle se contente et est satisfaite de garder ses outils et n'a que faire des discussions sur y a-t-il ou non une vérité relative ou pas. L'important, c'est de maintenir ces travailleurs et les pauvres dans une position de soumission et de passivité.
This is a show for the population. And in my view, that's not the way democracy works. Because I think it's very peripheral. In terms of almost being denuded of meaning.
Have you heard about Chomsky?
Look out.
Like Lemmy and Motorhead.
Come on.
Like Joey Ramone.
It's Chomsky.
And the Senate's SG.
Chomsky.
Chuck about the enemy.
Yeehaw.
A hero from a galaxy.
Good guy.
His freedom knows no boundary.
Cool.
A total intellectual.
Intense.
A neglected intellectual.
It's Noam. 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 Chomsky, 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 Noam.
Glad to be with you.
In the areas that concern us in human life, we can do no better than take our partial understanding and try to improve it. And that's happened over time. So the moral sphere has been expanded over the centuries. Not very long ago, slavery was justified. And it was justified with rational arguments.
Par exemple, la sphère morale s'est développée depuis pas si longtemps que ça, depuis quelques siècles, il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, l'esclavage était moralement, rationnellement justifié.
And in fact, the arguments of the slaveholders were never answered.
Et d'ailleurs, on n'a jamais répondu, contré les arguments avancés par les esclavagistes.
So, a standard argument of a slave owner was that I own my workers, so therefore I have to take care of them. Just as if I own a car, I take care of it.
Par exemple, un des arguments des esclavagistes, il dit « Je suis propriétaire de ces esclaves, et donc je dois en prendre soin, de la même manière que le propriétaire d'une voiture s'en occupe. »
You, the private industrialist, you rent your workers, so you don't take care of them. Just as if you rent a car, you don't take care of it.
Alors que vous, les industrialistes privés, vous louez votre force de travail, vos ouvriers, et de la même manière, donc vous ne vous en souciez pas, vous ne vous en préoccupez pas.
That argument was never answered, and it opens up a new question. Well, is it legitimate to rent people?
Et cette question, on n'a jamais apporté de réponse, et donc ça a ouvert sur une autre question. Est-il légitime de louer des gens?
Well, that's a very live question. It should be posed. And in fact, I think if our moral sphere expands, we'll conclude that it isn't appropriate to rent people.
Et c'est une question très vivante qui doit être posée. Et si notre sphère morale continue à s'accroître, je pense qu'un jour on en viendra à penser que c'est pas acceptable de louer ainsi des gens.
Comment on fait pour accroître la sphère morale?
Well,
c'est urgent.
You increase the moral sphere by the kind of struggle and engagement that leads you to think more deeply about what you yourself believe.
Bah, par les engagements et l'effort pour essayer de penser plus profondément à ce en quoi on croit.
Your actual beliefs are,
voilà.
Be hidden.
Sur quelles sont ces croyances qu'on a en soi, cachées en son de soi, à les remettre en cause.
I think what it means is that we're learning more about our own moral nature. We're learning things that were concealed from us by circumstances, by historical conditions, and so on. And as we come to recognize them, to perceive them, we can get a better understanding of what our own moral intuitions are and behave in a more civilized fashion.
Et c'est ainsi en progressant, en s'apercevant, en réalisant comment tout le passif, tout ce que porte la morale qui nous est transmise, l'éducation qui nous est transmise, en cherchant à l'intérieur de nous-mêmes les assises sur lesquelles on se fonde, qu'on arrive à les remettre en cause et à progresser.
In a broad sense, I think we find that throughout history.
Et ça, on le revoit d'un certain sens à travers toute l'histoire.
I mean, there is regression, but I think there's a general tendency towards appreciation of the need to protect, safeguard, and expand freedom and justice.
Et bien sûr qu'il y a eu tout au long de l'histoire des périodes de repli ou de retour en arrière, mais d'une manière générale, on voit cette tendance chaque fois plus affirmé de reconnaître la valeur de la liberté, la lutte pour défendre et étendre les libertés.
And over a broader range than we previously considered.
Et d'une manière beaucoup plus large qu'auparavant.
Jacques Bouvresse, vous êtes aussi confiant ?
Peut-être pas tout à fait autant, mais de façon générale, je suis moins optimiste que Noam Chomsky. Mais c'est pour ça que je l'envie, d'ailleurs, parce que je suis évidemment tout à fait choqué par l'espèce d'optimisme de l'impuissance qui me semble avoir gagné une bonne partie du monde intellectuel, hein, qui, en gros, s'accommode très bien du système néolibéral et se dit que, hein, avec quelques mesures appropriées et limitées, on va éviter le plus grave, enfin, grosso modo. Donc, j'ai beaucoup, énormément d'admiration pour l'optimisme de Chomsky, qui est, au contraire, un optimisme de la volonté et de l'action. Alors, la question qui subsiste, et qui est, je crois, très importante, c'est si on accepte de parler d'un progrès moral, dans quelle mesure provient-il des événements et de l'histoire, enfin des expériences par lesquelles passe l'humanité, dans quelle mesure le progrès dépend-il de ce qui nous arrive, hein, et dans quelle mesure dépend-il de ce que nous connaissons.
Just like to add with my general naïveté and search for simplicity, that these questions arise in a very real way and a very crucial way all the time.
Je voudrais juste préciser avec ma naïveté et ma volonté de faire voir les choses simplement que ces questions cruciales arrivent tous les jours.
So, for example, in Europe and the United States, there's a rising concern about the threat of aliens coming and stealing our culture and our society and our lives, what are called illegal immigrants.
En Europe et aux États-Unis, il y a cette menace croissante de voir des étrangers venir mettre à bas notre culture et nos vies. C'est ce qu'on appelle illegal aliens, les étrangers illégaux. Chez nous, situation irrégulière, clandestin.
And in fact, if you look at U.S. law, they are literally designated non-persons.
Et si on regarde la loi américaine même, ils sont littéralement au pied de la lettre désignés comme n'étant pas des personnes.
It's necessary to do that because there is an amendment to the Constitution, the 14th Amendment, established to eliminate slavery, which says that no person can be deprived of rights without due process of law.
Et ça, c'est à cause du 14e amendement à la Constitution américaine qui était écrit justement pour délégitimer l'esclavage et qui dit qu'aucune personne ne peut être privée de ses droits sans que ça passe par un tribunal.
The courts have therefore had to redefine the notion of person. So it's not a creature of flesh and blood, but it's a citizen of the United States.
Et donc, les tribunaux ont dû redéfinir ce que c'est que le terme même de personne, qui n'est plus maintenant une personne de chair et d'os, mais c'est un citoyen américain. Voilà ce qu'est une personne.
And that's now operative American law. These are not human beings.
Et maintenant, c'est à l'œuvre dans la loi américaine que ces gens ne soient plus considérés comme des êtres humains.
At the same time, the courts have determined that corporations, which are fictitious legal entities established by state power, that they are persons.
Et à la même temps, ces mêmes tribunaux ont déterminé que les entreprises, qui sont des entités fictives constituées au nom de l'intérêt des États, sont eux des personnes.
In fact, they are persons with rights beyond those of creatures of flesh and blood.
À vrai dire, ce sont même des personnes qui ont des droits qui s'étendent bien au-delà de ceux des pauvres créatures de chair et d'os.
Well, those are existing conditions in the intellectual culture in the United States, which are so grossly immoral that if you bring them to the light of day, people are enraged by them.
Donc ça, ce sont des réalités qui sont à l'œuvre dans la culture américaine aujourd'hui, mais qui sont tellement grossièrement immorales que si on les éclaire d'une lumière crue, ça paraît inacceptable pour chacun et immoral.
Therefore, the society needs a class of people called intellectuals who make sure that all of this is suppressed.
Et c'est pour ça que chaque société a besoin d'une classe d'individus qu'on appelle les intellectuels, dont la charge est de montrer ça et de faire en sorte que ça soit supprimé.
And exactly the same is true in France in a very dramatic fashion.
Et la même chose est exactement vraie en France dans une même proportion aussi dramatique.
So after all, people are coming from Africa to France. From the French colonies to France, but not from France to the French colonies.
Parce qu'on voit ici des gens qui viennent d'Afrique et des colonies françaises jusqu'à la France, mais jamais dans l'autre sens.
Only for holidays. For holidays.
Que pour les vacances.
For holiday. But and the reasons are pretty obvious as soon as you take the simplest look at history.
Et les raisons sont évidentes à le premier regard le plus évident qu'on porte sur l'histoire.
A few months ago, there was a horrifying earthquake in Haiti that killed several hundred thousand people.
Il y a quelques mois de ça, par exemple, il y a eu un terrible tremblement de terre à Haïti qui a tué plusieurs centaines de milliers de personnes.
The origins of that catastrophe go back to French history.
Et les origines de ces catastrophes remontent à l'histoire française.
Haiti was the richest colony in the world.
Haïti était la plus riche colonie au monde.
It's a source of a good deal of France's wealth.
Elle est à l'origine d'une bonne partie de la richesse française.
Without going through the history, France succeeded in turning it into a society which is in which, with the help of the United States, in which any storm turns into a catastrophe.
Et sans aller dans le détail de l'histoire, la France a réussi, avec l'aide des États-Unis, à faire de cette île un endroit qui va être ravagé au moindre orage, au premier orage venu.
France and the United States have a lot of responsibility for that.
Et la France et les États-Unis ont une très grande responsabilité là-dedans.
A few years ago, the president of Haiti politely approached Paris and asked to have some kind of concessions because of the enormous debt that Haiti had to face as punishment for the crime of liberating itself from France.
Il y a quelques années de ça, le président haïtien a très poliment demandé s'il était possible de trouver une compensation à la dette qui a été payée par Haïti pendant des
for the crime of liberating
pendant
itself
des décennies
from France.
Pour la dette qu'il devait régler à la France pour avoir commis le crime de s'être libéré de la France au nom de sa liberté.
There was a government commission.
Il y a une commission gouvernementale qui a été organisée,
by Régis Debray,
dirigée par Régis Debray,
which concluded that there's no merit to this request.
Qui disait que cette requête était irrecevable.
I think that's on the same moral level as saying that the victims of genocide are not persons.
C'est, je pense, moralement, c'est à peu près au même niveau que de déclarer que les victimes de génocide ne sont pas des personnes.
And we can easily find many examples like this, which are very concrete, very real. They're questions of elementary justice, elementary morality, and those are the things that we should be facing.
Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres exemples de ça qui sont très concrets, très réels, et qui font appel à une morale élémentaire. Et voilà ce à quoi on doit faire face.
So there is no difficulty in finding moral challenges which should awaken our moral consciences.
Donc c'est pas difficile de chercher des défis moraux qui devraient réveiller notre conscience morale.
And lead us to think more seriously about just what are our moral intuitions. What kind of creatures are we? What are our beliefs? Let's bring them forth, let's not conceal them, and let's face the challenges honestly. And I think that's the path towards expanding civilization.
Et voilà, je crois, quel est le chemin pour pouvoir étendre la civilisation, c'est-à-dire mettre à jour ses présupposés, mettre à jour ses acquis moraux pour les questionner et les interroger.
Quand Noam Chomsky est aux États-Unis, il fait la critique de la politique extérieure des États-Unis, mais quand il est en France, il fait la critique de la politique extérieure de la France. Avec
il a raison.
Il suffit de le déplacer et il fait la critique de la politique extérieure de chaque pays dans lequel il est.
Voilà, c'était en 2010 au Collège de France, une rencontre avec Noam Chomsky à l'invitation de Jacques Bouvresse. Vous avez compris, sur le thème de l'action, du rôle des intellectuels, du savoir. En les écoutant, je repense à des historiens que j'ai connus et qui
avait deux activités. L'une consistait à travailler pour des grandes marques de voitures, de chaussures, peu importe, et d'aller chercher dans l'histoire, dans les archives, des arguments pour fonder la légende de ces marques. Donc là, on avait la science mise au service du business. Voilà, il s'agissait de créer la légende de la marque. Et pour cela, ils étaient bien payés. Et d'autre part, ces mêmes historiens, avec beaucoup de sincérité, menaient tout un travail de réflexion extrêmement bien articulé sur l'histoire de la colonisation. Et à eux seuls, ils représentaient la contradiction et la tension qui peut exister aujourd'hui entre deux formes du rôle des intellectuels, soit être complètement au service du business, au service du client, au service du grand capital, comme on disait, ou bien essayer de faire un peu autre chose et de répondre à la formule l'autodéfense intellectuelle. C'est ce que voulait Noam Chomsky, c'est créer un système d'autodéfense intellectuelle, c'est-à-dire que chacun d'entre nous puisse utiliser des outils et des connaissances pour se défendre contre les manipulations, mais aussi contre le bon sens. Parfois, le bon sens nous trompe. Voilà, on continue cette rencontre Bouvresse-Chomsky avec un Jacques Bouvresse très attentif à ce que dit Noam Chomsky.
En l'écoutant et en réfléchissant aux exemples qu'il cite, j'ai l'impression qu'on serait tenté de dire qu'il n'y a pas seulement un phénomène d'extension progressive de la sphère morale, mais il y a aussi des phénomènes de rétrécissement caractéristiques de la sphère morale. Et le problème, comme Noam Chomsky le dit, est évidemment d'arriver à susciter les réactions morales qui sont indispensables pour provoquer le genre de condamnation morale que ce genre de discours et ces façons de faire devraient normalement susciter et ne suscitent pas nécessairement. Ça, c'est un problème très difficile. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, un phénomène de rétrécissement de la sphère morale et des réactions morales élémentaires qui est produit par les contraintes économiques et la loi du marché, l'action du marché, par exemple? Vous m'excuserez de citer l'exemple de la Chine, c'est pas du tout que je vais y ménager les États-Unis, mais je crois savoir qu'en Chine, il y a à peu près 6000 mineurs qui meurent chaque année dans les mines. Cette chose est parfaitement acceptée. Donc il y a un déficit au niveau des réactions morales élémentaires. Comment peut-on ? Ça me paraît inconcevable et monstrueux. Dans le même ordre d'idée, comment peut-on accepter le rôle d'affameur que joue une bonne partie des grandes firmes agroalimentaires, voir ce qu'a écrit là-dessus, même en faisant la part des exagérations, Jean Ziegler, que vous connaissez parfaitement. Comment accepter le comportement des laboratoires pharmaceutiques qui rendent impossible pour une bonne partie des malades du sida dans le monde de se soigner correctement. Enfin, vous voyez, c'est là quand même, il y a quelque chose qui... Il y a un déficit au niveau des réactions morales qui semble provenir du fait que la loi suprême du marché, le Dieu qui nous gouverne, c'est-à-dire le marché, ça semble résulter d'une espèce de servitude dans lequel, de servitude... je ne sais pas s'il faut dire volontaire ou involontaire, auquel il réduit une bonne partie d'entre nous. Je crois me rappeler que dans la discussion, après son exposé au Collège de France, Noam Chomsky a dit, il a parlé de la politique en disant que c'était « the shadow cast on society by high finance ». L'ombre portée, jetée sur la société par la haute finance. Alors Dieu sait si nous sommes confrontés à ce problème qui est dramatique. Et alors à ce moment-là, on nous a dit on va moraliser la sphère, on va moraliser le grand capital, on va moraliser la sphère financière. Alors j'aimerais demander à Chomsky ce qu'il pense de cette espèce d'invasion de l'éthique qui est en train de nous gagner, c'est-à-dire voilà, il faut mettre de l'éthique partout. Hein, il y a des placements éthiques, au fond. Prétendre moraliser quelque chose en général, ça veut dire que les contrevenants et les délinquants auront droit simplement à un sermon moral, et puis que le prix de leur forfait sera payé, comme d'habitude, par les plus défavorisés et les plus pauvres. Hein. Grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Qu'on veuille nous tromper et nous exploiter, c'est déjà pas très agréable, mais qu'en plus, on se croit autorisé à parler de morale et à faire des sermons moraux, je trouve, ça rend la chose encore plus intolérable.
I mean, I wish it were true that ethics is considered a value of significance in finance and other actions, but it's not.
J'aimerais dans l'absolu que la morale et l'éthique soient considérées comme une valeur significative dans la finance et le monde économique, mais ce n'est pas le cas.
And it's not in principle.
Et ça ne l'est pas par principe.
So in a market system, the actors are supposed to disregard ethical consequences.
Dans un marché économique, les acteurs sont censés de mettre de côté justement toutes les considérations éthiques.
So, for example, if you and I enter into a transaction in a market, say I sell you something, we are not supposed to consider the impact on others.
Par exemple, si nous sommes dans une transaction, vous et moi, que je suis censé vous vendre quelque chose, on n'est pas censé prendre en compte ce que cette transaction a comme impact sur les autres.
That's just elementary ethics, to consider the effect of our actions on others.
Alors que c'est là même l'éthique la plus élémentaire, c'est de considérer l'impact de nos actions, de nos faits gestes sur les autres.
But in a market system, you're required to be a moral monster.
Mais le marché te demande d'être un monstre moral.
That's the definition of a market system.
C'est la définition même d'un système de marché.
And it has very serious consequences.
Et qui a donc des conséquences terribles.
So, for example, to take the most extreme, in contemporary market systems, those who make the decisions, say British Petroleum, to take a current example, or any large corporation, they must disregard the effect of their actions, except to maximize profit.
Par exemple, dans le monde actuel, si on prend l'exemple le plus récent de British Petroleum, qui doit prendre des décisions, mais qui doit prendre en compte comme seul critère son profit maximum à elle.
Well, they are supposed to disregard what economists call externalities, things that are not related to making profit.
Et de ne pas tenir compte de ce que les économistes appellent les externalités, c'est-à-dire ceux dont ils n'ont aucun profit à tirer.
Well, in the current world, one of the externalities that they must disregard is survival of the species.
Et dans le monde actuel, une de ces externalités qu'ils ne doivent pas prendre en compte, c'est la survie des espèces.
And that's not an abstract consideration.
Et ce n'est pas une considération
abstraite. That's a problem that our generation or the next generation are definitely going to be facing.
C'est le problème que notre génération et les générations suivantes devront d'une manière ou d'une autre faire face.
And as long as we accept institutional arrangements that require us to be moral monsters, it's almost certain that we'll destroy the species.
Et tant qu'on accepte l'idée d'institutions qui nous considèrent et qui nous acceptent comme des monstres moraux, il est à peu près acquis que ces espèces vont du coup disparaître.
So we're not talking about minor issues.
Et donc on ne parle pas là de questions secondaires.
Oui, c'est une question absolument majeure. Enfin, moi, je la vis comme ça. Nous sommes à la merci de gens qui, effectivement, se conduisent à peu près comme des monstres moraux, je suis tout à fait d'accord, mais à qui on se refuse à imposer des contraintes quelconques. Un des principes fondamentaux du système libéral est que la seule chose qu'on peut faire pour essayer de les amener à modifier leur comportement est de leur prêcher la morale. En faisant semblant d'ignorer le fait que précisément c'est la seule chose à laquelle ils sont obligés de rester complètement insensibles. Donc là, nous sommes dans une situation extrêmement difficile et dramatique parce que pendant ce temps-là, des milliers et des millions d'existences humaines dépendent de ça, c'est-à-dire dépendent du comportement de ces gens-là. Et il n'y a rien de plus humiliant pour l'esprit et pour la conscience morale que ce genre de situation.
All of this leads to a kind of an interesting chapter of intellectual history.
Tout ça mène à un chapitre intéressant de l'histoire intellectuelle.
I mean, it's just elementary common sense to recognize that we have to consider the effects of our actions on others.
C'est vraiment du sens commun le plus élémentaire de savoir qu'il faut prendre en compte les conséquences de nos actions sur les autres.
Therefore, one task of the intellectual classes is to try to modify this. So we cannot perceive and cannot comprehend what elementary common sense tells us.
Et voilà une des tâches de la classe intellectuelle, c'est de faire perdre de vue que c'est au contraire une de nos préoccupations les plus essentielles. Quelles sont les conséquences de nos actes?
D'oublier. So in fact, there's a major element of modern thought which tries to convince people that concern for others is immoral.
Et il y a même voilà, une part de la pensée contemporaine qui essaye de convaincre les gens que prendre en compte les autres est immoral.
You're supposed to consider only your own personal gain and what's good for you. To pay attention to what matters to others is immoral.
Qu'il faut au contraire jouer son propre jeu, chercher ce qui est bien pour soi, et que se soucier des autres est immoral.
So part of what's called evolutionary psychology is attempts to show that it's an outgrowth of evolutionary processes, that we care only about ourselves, maybe our children because they have the same genes, or but not other people.
Et c'est ce qu'on voit, par exemple, dans ce qu'on appelle la psychologie évolutionniste, qui voudrait que notre souci de soi soit déterminant et qu'on ait que le souci de soi, peut-être à la rigueur de ses enfants, parce qu'ils portent nos gènes, mais en tout cas, que ce soit la seule préoccupation, et ça pour des raisons physiologiques presque.
And in fact, not surprisingly, this tendency tries to appropriate what they call science.
Et ce n'est pas surprenant de voir que cette tendance essaye de s'approprier la légitimation de ce qu'ils appellent la science.
So I think a major task throughout is to just cast light on the darkness that is imposed by the intellectual classes when they perform their task of supporting privilege and power.
Et je pense qu'une des tâches les plus essentielles est d'apporter la lumière dans les zones qui sont délibérément maintenues dans l'obscurité par la classe intellectuelle pour garantir et assurer le pouvoir de la classe dominante.
And when we do that, I think we do see that the very simple conceptions that are not obscure to us lead us quite a long way towards moving towards a more just and honorable and free society.
Et c'est en se prenant sur ce chemin-là que naturellement, on avance vers une société plus juste, plus honorable.
At the moment, the necessity for this is so great that literally the fate of the species turns on it.
Et aujourd'hui, cette nécessité de mener cette interrogation est tellement importante que l'enjeu même est la survie d'espèces.
Consommation, déployons les chars à bifton, avec du light, avec du verre, peut-être qu'on pourra passer l'hiver. Une gonzesse en maillot de bain, pour un tampon, pour un shampoing, relançons de nouveaux produits, vachement mieux.
My feeling is that once the clouds are blown away and the sunlight shines through, these things are obvious to everybody.
Ma conviction, c'est qu'une fois que les nuages sont chassés, que le soleil éclaire tout, après, ça devient assez évident ce qu'on aperçoit pour tout le monde.
There is a nice phrase that's sometimes been used called intentional ignorance.
Il y a une jolie phrase qui est parfois utilisée, c'est l'ignorance intentionnelle.
And once we are willing to make the effort to escape intentional ignorance, I think a lot of things become quite clear.
Et quand on accepte de faire l'effort d'abandonner cette ignorance intentionnelle, les choses assez naturellement s'éclaircissent.
That's a hard step to take.
Mais le pas est dur à franchir.
In fact, in the sciences, you know, the simplest area, for 2,000 years, scientists were willing to accept a simple explanation of why, if an apple is detached from a tree, it goes downwards, while steam goes up to the sky. The answer was, they're going to their natural place.
Voilà, et c'est même assez difficile, cette démarche. Par exemple, même en science, pendant 2000 ans, les scientifiques et chercheurs se sont contentés de la version officielle qui a été communément admise pour s'expliquer pourquoi la pomme tombe de l'arbre et la vapeur monte au ciel. C'était tout simplement parce que chacune allait vers son origine, là d'où elle vient.
When Galileo and others, after 2,000 years, not a small period, were willing to face the challenge of asking, well, why does that happen? That's when modern science developed.
Et c'est quand Galilée et ses consorts, près de 2000 ans après, ce qui n'est pas rien, ont décidé de faire face au défi de répondre à ces questions, c'est là qu'a débuté la science moderne.
And I think the same kind of intentional ignorance prevents us from facing pretty obvious facts about social and human relations. And if we can break out of that darkness and simply look at things honestly and simply, we will reach very quickly many quite proper conclusions about the kinds of things we've been discussing.
Et je pense que dans le domaine social, si on arrive à faire le même effort pour se détacher de cette ignorance intentionnelle, si on arrive à chasser l'obscurité pour faire venir la lumière, on aura, de la même manière, fait des pas en avant.
In order to achieve very reasonable and significant conclusions about how human affairs should be organized.
Voilà, de manière à arriver à des conclusions assez sensibles et sensées sur comment arranger les affaires humaines.
It didn't take any special training or unique brilliance for, say, Galileo to ask why does it happen.
Il n'a pas fallu un entraînement très particulier ou qu'il fût particulièrement brillant à Galilée pour qu'il se demande pourquoi les choses se passent ainsi.
It simply took intellectual honesty.
Ça a juste demandé une honnêteté intellectuelle.
And that's a quality that anybody can have.
Et c'est une qualité que tout le monde peut avoir.
It means a willingness to break out of conventional doctrines that are imposed from the outside.
C'est-à-dire la volonté
and to ask,
de s'échapper
why should I accept them?
Des doctrines conventionnelles qui sont acceptées par tout le monde et dire pourquoi je devrais m'y soumettre moi aussi.
And I think as soon as we ask why should I accept them, whether it's illegal immigrants or destruction of the environment or rights of women or whatever, as soon as we're willing to ask why should I accept these doctrines, I think answers come pretty quickly.
Et à partir du moment où on commence à se poser la question pourquoi accepterais-je ces doctrines, que ça soit pour les étrangers en situation irrégulière, pour le droit des femmes, pour la préservation de l'écologie, à partir du moment même où on commence à se poser la question pourquoi devrais-je accepter ça, la réflexion s'ouvre.
So I think the lesson is to be willing to accept the challenge of intellectual and moral integrity.
Et je pense que la leçon, c'est d'arriver à accepter le défi de l'intégrité morale et intellectuelle.
Noam, je voudrais qu'on revienne sur un mot que vous employez très souvent, c'est le mot truisme. Et c'est un mot qu'on trouve un petit peu de la même façon chez Orwell, qui est le common sense. Ouais. Dites-nous un peu, qu'est-ce qu'il faut savoir pour agir?
It should be a notion very familiar in France and in French culture. It's the core of Descartes' approach.
C'est vraiment une notion qui doit être très familière aux Français dans la culture française, parce que c'est la base de toute la démarche de Descartes.
He wanted to appeal to the bon sens, to ordinary people.
Cet appel au bon sens des gens ordinaires.
Well, it turned out that what Descartes and Galileo and Newton thought was common sense turned out to be false.
Mais il est apparu que ce que Newton, Descartes et Galilée pensaient être le bon sens commun était en fait faux.
And nevertheless, the reasonable approach is to pursue our own common sense understanding until we reach limits where we show that something's wrong with it.
Mais le bon sens, néanmoins, consiste à poursuivre avec cette approche du bon sens jusqu'à ce qu'on aperçoive des faits qui contrarient ce bon sens.
Either we don't understand what's happening at all, or else what is understood is accessible to common sense, and in that sense is close to truism.
Et donc, ou bien on ne comprend rien à ce qui se passe dans le monde, ou bien ce qu'on comprend est accessible au bon sens commun, et donc on en revient au truisme.
And if someone claims the opposite, it's their responsibility to show it.
Et si quelqu'un dit le contraire, c'est sa responsabilité de le prouver, de le montrer.
Thank you. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous.
Nom, nom, chanty, 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 nom.
Merci à tous. C'était un entretien au Collège de France en 2010. Noam Chomsky et Jacques Bouvresse. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien dans le numéro 44 de la revue Agone. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez également écouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org, et aller faire aussi un tour sur la page Facebook de Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Fabien Laléouze et Stéphane Poitvin. Guy Ventil a assuré la traduction et le montage de cette émission qui a été réalisée par Lucie Acoun et Franck Adhérer, préparée avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis. Je vous laisse dans l'immédiat avec Hervé Pochon et son temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Il y a une porte qui vient de s'ouvrir, on est rentré. Là, il y a tous les syndicats qui sont rassemblés, il y a CGT, Sud.
Vous avez certains médecins urgentistes, dont M. Prudhomme pour l'instant, avec M. Kerzek derrière, le Dr Kerzek et le Dr Prudhomme.
Le Dr Kerzek, c'est celui qui a la veste...
Avec la chemise blanche.
Non, je vais aller voir. Bonjour à tous et bienvenue à l'Hôtel Dieu, l'hôpital Hôtel Dieu à Paris, à deux pas de Notre-Dame, hôpital que l'on veut fermer.
Par contre, les pseudo-experts de la commission médicale d'établissement, là, les grands professeurs qui pensent avant tout à préserver leur activité privée, parce qu'il faut savoir que l'hôpital Cochin, enfin le groupe Cochin Hôtel Dieu, c'est la plus grande clinique de France. Hein. Il y a 52 médecins qui font de l'activité privée et qui génèrent un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros par an d'activité privée. C'est ce qu'ils veulent préserver. Alors que nous, on est aux urgences et quand les gens viennent aux urgences, on leur demande pas, même s'ils ont leur papier, s'ils ont une couverture sociale, on les soigne avant tout. Puis après, on voit. S'il y a un problème médico-judiciaire, on vous appelle, mais après les avoir soignés.
Vous êtes qui, monsieur ?
Moi, je suis le docteur Prudhomme et je suis responsable de la CGT.
Et vous, monsieur ?
Je suis le docteur Kerzek, urgentiste à l'Hôtel Dieu.
Et vous représentez un syndicat ?
Non, pas du tout. Je suis médecin. Je suis le médecin qui a été démis de ses fonctions pour avoir fait venir des médias et des politiques, pour avoir lancé l'alerte en disant « c'est une catastrophe si les urgences de l'Hôtel Dieu ferment, parce que tous les services d'urgence sont saturés sur la capitale ». Voilà. Et donc, si on fait cet événement aujourd'hui, c'est pour montrer aux politiques qu'il y a bien conscience, hein, que c'est un vrai problème, l'accès aux soins en urgence. Tous les Parisiens savent que ça met des heures et des heures avant d'être vu par un médecin et que la solution, c'est sûrement pas de fermer encore un service d'urgence. Voilà.
Donc le conflit, il est simple, c'est que on veut fermer les urgences de l'Hôtel Dieu pour faire des économies, et vous, vous dites, on ne peut pas faire des économies là-dessus, il n'y a pas assez de place d'urgence déjà à Paris, donc on ne peut pas fermer un service.
C'est pire que ça, on veut fermer les urgences de l'Hôtel Dieu pour faire une opération immobilière qui est la vente du siège immobilier, il faut bien recaser les directeurs quelque part, et donc on les met à la place des malades et des blouses blanches. C'est ça la réalité, mais ça ne fait pas d'économie, parce que les investissements dans cet hôpital, ils ont été faits dans les 5 dernières années, les urgences sont neuves, la radiologie est neuve, l'ophtalmologie, la dernière salle a été complètement ouverte à neuf et inaugurée en février 2012. La salle qu'on occupe est une salle qui a été inaugurée il y a moins de 2 ans et qui a été vidée le 8 avril. Donc tout ça pour vous dire que économiquement, ça ne tient même pas la route. Et on pourrait dire à la limite, il faut faire des économies, c'est la crise économique, etc. Et donc on sacrifie un service d'urgence. Mais c'est même pas le cas, puisque les investissements ont été faits, les services sont neufs, fonctionnent. Et on va aller casser ce qui a été investi pour pouvoir y mettre des bureaux, c'est-à-dire remettre de l'argent public. Donc sur un plan économique, ça ne tient pas. Et la deuxième chose, c'est que sur un plan sanitaire, on sait très bien que les services d'urgence sont tous saturés. On sait très bien que cette saturation, ça a des conséquences, ça tue des gens. C'est une surmortalité qui a été prouvée par toutes les études. On sait que le vrai problème aux urgences, c'est pas de dire aux gens n'allez pas aux urgences. Les gens, ils viennent aux urgences parce qu'ils ont besoin, ils viennent pas par plaisir. Et que la seule réponse actuelle, c'est de dire on ferme un service d'urgence. Donc sur le plan sanitaire, on voit que c'est aberrant. Et sur un hôpital comme l'Hôtel Dieu, qui est un endroit stratégique, on est au cœur de Paris, on a 13 millions de touristes qui passent sur le parvis de Notre-Dame, on a le RER Châtelet, les métros, on est à 750 000 voyageurs par jour qui sont à proximité immédiate de l'Hôtel Dieu. Donc on imagine bien le bassin de population que ça représente. C'est comme si on rasait un hôpital, on fermait un hôpital et un service d'urgence d'une ville de 400 000 habitants, puisque les habitants autour, c'est les 9 arrondissements, c'est 400 000 habitants. Donc on voit bien que médicalement, économiquement et puis en termes de santé publique sur l'offre de soins à Paris, c'est juste une catastrophe de fermer cet hôpital.
Et ça, c'est la gauche qui a décidé ça ?
Alors, sans rentrer dans un débat politicien, actuellement, c'est la gauche et c'est le ministère de la Santé. Donc, c'est un gouvernement de gauche qui est en train d'entériner le siphonnage, le travail de sape de cet hôpital et la fermeture, effectivement, des urgences, même si Marisol Touraine, ministre de la Santé, a annoncé un moratoire. Elle a dit, il ne faut pas qu'on ferme. Et elle a reconnu nos arguments. L'alerte que moi, j'ai lancée en disant, attention, c'est un hôpital qui est indispensable parce que les autres services d'urgence sont saturés, elle a reconnu le 10 juillet. Et elle a dit, on ne ferme plus au 4 novembre. Mais on ne ferme plus pour des raisons probablement électorales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça avant les municipales. Et nous, ce qu'on voit, c'est que tous les jours, au quotidien, encore ce matin, un automate de biologie, un appareil pour faire les examens qui est indispensable aux urgences, a été remplacé par une plus vieille machine par l'assistance publique. On sait que cet été, il y a des lits qui ont été déménagés et la direction a tenté de vider. Donc on voit bien qu'il y a une politique du vide. Et une fois qu'on aura fait cette politique du vide, on dira, bah, voyez, on ne peut plus fonctionner. Donc tout ça, je ne peux pas croire que la direction générale de l'assistance publique le fasse sans la caution du ministère. Donc oui, le gouvernement actuel est en train de cautionner la fermeture de cet hôpital. Et quand Marisol Touraine dit on restructure les urgences et que la conséquence c'est de fermer les services d'urgence, bah, il faut le dire à la population. C'est pour ça qu'on organise cette manifestation avec tous les élus de droite, de gauche, parce que nous, ce qui nous importe, c'est de soigner les gens et de diminuer les temps d'attente aux urgences. Et fermer, c'est pas la solution.
Mais j'ai pas bien compris. Vous êtes toujours payé, vous ?
Ah ben oui, moi je suis praticien hospitalier, ben je fais toujours mon boulot surtout, je fais toujours mes gardes, je vois toujours les malades, et par contre c'est mes responsabilités administratives de responsable d'unité, voilà, qui m'a été, j'ai été déchargé par l'assistance publique de cette responsabilité-là, qui est une mesure d'organisation administrative, mais je reste médecin.
Et en quoi ça vous gêne finalement qu'on vous ait relevé de vos...
C'est extrêmement symbolique, c'est-à-dire qu'il y a une valeur d'exemplarité. Je suis le porte-parole d'un groupe, d'un comité. Il y a des personnels, il y a des syndicats, il y a des élus. C'est le comité de défense de l'Hôtel Dieu. Et comme je suis la personnalité qui défend et qui porte la parole, si on coupe cette tête-là, eh bien, ça a valeur d'exemplarité pour dire aux autres, taisez-vous, ne dites rien. Voilà ce que c'est actuellement. C'est-à-dire que les blouses blanches, elles sont soumises ou démises. Et comme moi, je ne me suis pas soumis, on m'a démis de mes fonctions.
Voilà, il faut que je sorte le micro parce que je l'ai caché dans la manche, parce que sinon, on ne pouvait pas me laisser rentrer.
Eh bien, oui, c'est la démocratie.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
France Inter et le Théâtre de la Ville, avec le Festival d'automne à Paris, présente du 25 septembre au 2 octobre, la dernière création de Christophe Marthaler, Lest Tage ein Vorabend. Créé dans l'ancien parlement de l'Autriche-Hongrie, ce nouveau spectacle, qui réunit 17 chanteurs, comédiens et musiciens, réactive la mémoire douloureuse de l'Europe et alerte sur les dangers d'aujourd'hui. Retrouvez Lest Tage ein Vorabend dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité, Laetitia Gaillet.
C'est une information de Sud-Ouest. Cet après-midi, dans l'affaire tentaculaire Bettencourt, la juge Isabelle Prévost-Després est renvoyée en correctionnel. Elle est poursuivie par la justice pour violation du secret professionnel. La vice-présidente du tribunal de grande instance de Nanterre est soupçonnée en fait d'avoir communiqué en 2010 à deux journalistes du Monde des informations relatives aux auditions de deux employés de la famille Bettencourt et à une perquisition menée au domicile de la milliardaire. Dans l'affaire Mera, cette fois, la justice ordonne cet après-midi la libération d'un des trois détenus. La justice cherche toujours à savoir si le tueur au scooter a bénéficié de complicité en 2012. Personne n'a fait appel du jugement. La condamnation à 6 mois de prison avec sursis du policier impliqué dans l'accident de Villiers-le-Bel en 2007 est devenue définitive. Franck Vialet conduisait la voiture de police quand il a percuté deux adolescents qui circulaient à mini-moto. La mort de Mouchine et Laramie avait provoqué de violentes échauffourées entre les jeunes et les forces de l'ordre en 2007. Une détenue s'est suicidée ce matin dans la maison d'arrêt de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Âgée d'une trentaine d'années, elle était emprisonnée pour des agressions contre du personnel hospitalier. Pascal Durand a promis de s'exprimer avant la fin de la semaine. On saura donc alors si ce que l'on dit au sein d'Europe Écologie Les Verts aujourd'hui est vrai. Hier, lors d'une réunion interne de préparation au prochain congrès des Verts à Caen en novembre, le secrétaire national aurait dit qu'il jetait l'éponge et qu'il ne briguait donc pas d'autres mandats. Cela fait suite à ses critiques contre le gouvernement. Pascal Durand demande à François Hollande des preuves en matière de transition énergétique. Ce sera le plus gros paquebot de croisière au monde et ce sont les chantiers STX de Saint-Nazaire qui vont le construire. Ils ont démarré la construction aujourd'hui. Le navire fera 360 mètres de long et 60 de large, montant estimé 1 milliard d'euros. Le propriétaire est américain. Les candidats à l'examen d'entrée à l'école d'avocats de Toulouse vont devoir replancher, la faute à une multiplication d'incidents d'origine urinaire. C'est ce que dit l'université. En fait,
durant l'épreuve la semaine dernière. Il leur a été interdit de sortir avant d'avoir remis leur copie. Le but des examinateurs étant de lutter contre les fraudes aux téléphones portables. Or, l'épreuve durait 5 heures. Les étudiants repasseront donc cette épreuve le 5 octobre prochain. Un voilier vide a été découvert ce matin entre Fécamp et Dieppe en Seine-Maritime. Il était échoué. Les recherches tout d'abord françaises ont été élargies à la côte anglaise. Selon la préfecture maritime, il y a une forte probabilité de chute à la mer d'un ou des membres d'équipage. 5,5 millions de personnes ont suivi hier soir la finale des championnats d'Europe de basket sur France 2, soit 21,3% de part d'audience. Cette audience a placé en tête France 2 des audiences de la soirée durant toute la durée de la rencontre. Enfin, Jean-Louis Trintignant met un terme à sa carrière d'acteur. Le comédien a même donné une date. Ce sera à l'issue d'un récital poétique qui sera donné les 1er et 2 octobre prochains au Nouveau Théâtre d'Antibes. « Je suis très vieux, j'ai du mal à me déplacer », dit-il. Place aux jeunes. Jean-Louis Trintignant aura 83 ans le 11 décembre prochain. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vailly.
Cette semaine dans Live Me Do au studio Charles Trenet, t'as la musique 100% mal, avec l'humour Nino Ferrerien de Thomas Fersen.
Donne-moi un petit baiser.
Les histoires d'A de Pierre Sfaccini.
Three words of a love song, like broken across the sea.
La pop dance de Jeff Barbara. Et une visite amicale de Féloche et de sa mandoline pour un titre.
Il y a ceux qui brûlent en enfer pour l'éternité dans les flammes éternelles.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous mercredi à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Bonjour Laetitia Gaillé, on vous retrouve à 17h.
A tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous. Des nouveautés aujourd'hui avec, pour commencer, une symphonie de Mozart, symphonie d'adolescence, mais déjà un chef-d'œuvre. Mozart avait montré cette symphonie à son père qui a dit « il ne faut pas la publier, tu verras quand tu seras plus grand, tu verras plus tard ». Bon voilà. Et en fait, heureusement, on ne l'a pas écoutée parce que c'est une des favorites du public et des orchestres, la 29e symphonie, tout à fait angélique, très très claire par moments, mais qui possède un final sur un rythme de musique de chasse avec un développement riche et parfois dramatique. Jeune, certes, mais déjà absolument génial. Thank you.
Thank you.